Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Bonjour Turbine, émission enregistrée dans le Media Lab du WIP et diffusée sur Station B et Radio Pulse. Cette émission est également disponible en podcast sur l'audioblog d'Arte, ainsi que sur Deezer et Spotify. Peut-être est-ce d'ailleurs de là que vous nous écoutez. Pour bien commencer l'année 2023 et le faire en douceur, on vous a concocté une émission aux petits oignons sur le thème des pratiques de soins alternatifs. Et il y en a pléthore. Aromas, luminaux, phytothérapie, acupuncture, hypnose, sophrologie, reiki, chamanisme, shiatsu, ce sont autant de pratiques de soins alternatifs qui se démocratisent ces 15 à 20 dernières années, en complément ou parfois en opposition à la médecine conventionnelle ou dite aussi occidentale. Quels en sont les bienfaits ou s'agit-il de simples effets placebo? Charlatanisme, dérives sectaires, nouvelles percées néolibérales? Quels sont les critères d'évaluation des résultats les plus couramment revendiqués? Peut-on qualifier ces pratiques sous la dénomination de médecine douce ou faudrait-il plutôt parler de thérapies alternatives ou encore de pratiques pour améliorer le bien-être, pour lutter contre les douleurs physiques et mentales? Voilà un aperçu des nombreuses questions qu'on s'est posées en préparant cette émission et qu'on défrichera ensemble aujourd'hui. Avec nous pour en parler, Alain, avec qui je vais partager l'animation de cette émission. Bonjour Alain.
Bonjour Roxane.
Autour de la table également, bonjour Raphaël. Tu viens avec quelle rubrique aujourd'hui ?
Salut, eh ben moi je viens avec une invitée que nous aurons par téléphone tout à l'heure. Voilà, la liaison est en train d'être établie, qui nous parlera justement de ces médecines alternatives et ce qu'il faut savoir au niveau scientifique, notamment par rapport à notre cerveau sur tout ça.
Impeccable, merci Raphaël. Avec nous également, on retrouve aussi David pour ajouter encore plus d'humour et de rire. C'est quoi ta rubrique aujourd'hui, David ?
Eh bien, comme d'habitude, l'intitulé, tu l'as presque donné. Voilà, moi, sous le prisme de l'humour, je vais soigner nos auditeurs.
Ah bah c'est parfait, merci David, tu prends toujours bien soin de nous. Et puis que serait aussi cette émission sans les mains d'or et une agilité hors pair à la technique derrière les platines? Bonjour Marion.
Salut Oxane.
Bon bah bonne année, vous êtes prêts à commencer 2023?
Ouais.
Ouais, on est parti.
Et bah c'est super. Alain, on va pouvoir commencer à accueillir nos deux invités.
Oui, donc deux invités, Isabelle Vauvarin, maître Reiki, chamane, et en formation constellation familiale, et Daniel Brenet, maître Reiki, sophrologue et pratique du shiatsu. Bonjour Isabelle, bonjour Daniel.
Bonjour Alain, bonjour Roxane.
Alors Isabelle, j'ai une première question à te poser. Qu'est-ce que c'est qu'une chamane et comment et pourquoi est-ce qu'on devient chamane?
Alors, on ne devient pas chamane. En fait, on est chamane. C'est une capacité qu'on a dès la naissance. Et donc, je n'ai pas choisi d'être chamane. J'ai juste choisi d'accepter cet état de fait. Un chaman ou une chamane est un... Je veux dire une chamane, ça sera plus facile puisque je vais parler de moi. Une chamane et une guérisseuse, comme peut l'être un magnétiseur ou un coupeur de feu, je suis cela aussi, qui a la particularité de rentrer en transe dans la forme la plus ultime pour être dans cet acte de guérisseur. Donc ce sont des transes très, très intenses, très physiques, comme les chamans mongols le font, donc avec une dimension vraiment très, très yang.
Daniel, un peu la même question. Qu'est-ce que le reiki, le shiatsu et toi qui es aussi sophrologue, comment on choisit ça et en quoi ça consiste?
Alors j'ai choisi ça tout simplement pour moi. Après avoir expérimenté pas mal de techniques
pour aller bien être en pleine forme. Ne trouvant pas les réponses dans le traditionnel, il y a 32 ans, j'ai découvert la sophrologie. Quand je suis sorti la première fois de chez la sophrologue, j'ai pensé que c'était du pipeau. J'avais l'impression qu'il y avait... Rien ne s'était passé. Par contre, 8 jours après, j'ai vu les résultats. Donc, ça m'a donné envie, puisque ça me faisait du bien de pratiquer. Et puis, au cours des 30 dernières années, étant curieux, je suis allé voir d'autres techniques pour soigner des petits bobos personnels. À chaque fois, c'était une démarche personnelle que j'ai envie de partager et que je partage.
J'avoue que sur le shiatsu, j'ai expérimenté avec toi et j'avoue que c'était très sympa.
Et moi, je suis toujours, comme un enfant, à chaque fois, je suis surpris de réaliser et de permettre à quelqu'un de repartir en meilleur état. Et si c'est du placebo, c'est pas grave. L'important, c'est que
vous
ça
nous
marche.
Dévancez.
Voilà.
Alors, je continue mon questionnement, Isabelle. Je suis activement les réseaux sociaux et ton adresse sous l'aile de la chouette, donc qui est le lieu où tu résides.
Tout à fait, oui, à la Baleine, entre Gavray et Rambi, un peu au sud de Villedieu, au nord de Villedieu, au sud de Coutances, voilà, à l'est de Granville.
Villedieu-les-Poils ?
Villedieu-les-Poils, okay, oui, d'accord. Je suis dans la Manche.
D'accord, ouais, la néo-normande que je suis a un peu du mal à se repérer parfois.
Okay. Et donc, en te suivant sur Facebook, pour ne pas le nommer, je te vois souvent annoncer des cercles de guérison.
Alors, ce sont des cercles de chants de guérison. Il se trouve que, avant de découvrir que j'étais chamane, ou en tout cas en même temps, j'ai quitté l'éducation nationale pour devenir chanteuse. Donc j'avais déjà une pratique du chant, puisque c'était un chemin qui s'était déjà fait depuis une quinzaine d'années. Et en découvrant que j'étais, au même moment je découvre que je suis magnétiseuse, c'est seulement quelques années après que j'ai découvert cette dimension de chamane, ma voix a commencé à faire des drôles de trucs pendant mes soins Reiki, parce que c'est ça que j'ai utilisé pour protocoliser ma pratique de guérisseuse. Mes mains ont commencé à faire des drôles de choses, et puis qui ne correspondaient pas à la pratique purement apprise par le biais du Reiki. Et ma voix a commencé à intervenir dans les chants, dans les soins par des chants. Des chants qui n'avaient rien à voir avec les improvisations de jazz que j'avais l'habitude de faire dans ma pratique de chanteuse. Et puis, au bout d'un moment, lors de cercles de femmes que j'animais à l'époque, je terminais toujours par un de ces chants. Et puis, jusqu'au moment où il y a une femme qui dit « Isabelle, quand tu chantes, ça me guérit, je me sens vraiment beaucoup mieux après ». J'ai entendu ça une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, et il y a un moment où j'ai compris que dans ma voix, il y avait une vibration de guérison. Et que ces chants que je chantais, c'est pas moi qui les inventais, je les canalisais j'ai l'habitude de dire que je suis connectée aux sagesses ancestrales anciennes, et que c'est ces chants que je connecte dans cette pratique de chant de guérison. Et donc je chante dans des langues que je n'ai pas apprises, des chants que je n'ai pas appris. Et donc lors de ces cercles de chant de guérison, je propose des instants où je chante accompagné de certains instruments de guérison comme le tambour, le bol tibétain et quelques autres instruments. Et je propose aussi quelques petits processus, quelques petits rituels de libération pour que les gens puissent y trouver quelque chose qui leur correspond vraiment. Et voilà, ça dure 2 heures et j'en fais un par mois à la Baleine et un par mois près de Cherbourg, au Grand Jardin du Teil, qui m'accueille dans une très belle salle où il y a des cours de Qigong. Et dans ce dojo, il s'y passe toujours des jolies choses. Et les gens reviennent d'un mois sur l'autre depuis plusieurs années. Donc, je pense que ça doit faire du bien.
J'espère pour eux.
En tout cas, on y prend beaucoup de plaisir.
Dis-nous-en un peu plus sur le Reiki, Daniel, s'il te plaît.
Puisque tu le demandes comme ça, je vais le faire. Ce qui m'intéresse dans le Reiki, c'est qu'en fait, Tout le monde a cette capacité-là, à partir du moment où on est initié. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'on peut devenir autonome, indépendant. On n'a pas besoin de dépendre de quelqu'un pour se faire un traitement Reiki. Je suis toujours, là aussi, je suis souvent bluffé, parce que le Reiki, ça, c'est utiliser l'énergie universelle qui est autour de nous. La personne qui pratique le Reiki n'est qu'un canal. Donc son ego, il peut rester bien bas, il ne fait rien de particulier. On est seulement un canal et on permet à la personne de se soigner elle-même. L'intérêt du Reiki, c'est qu'on peut travailler sur des problèmes physiques, psychiques, mais aussi sur des situations. Et j'ai pas mal d'exemples très surprenants où je pense à un ami qui devait muter, qui ne pouvait pas muter parce que la législation l'empêchait. En faisant un traitement Reiki, il a eu ses mutations dans les 3 jours. Je donne cet exemple-là, mais c'est parce qu'il y a eu un cumul de situations. Par contre, il faut rester humble, ça peut ne pas fonctionner. On ne sait pas forcément pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas. Il faut aussi rester humble en sachant que peut-être aussi que le lien avec la personne n'est pas le bon et il faut qu'elle aille voir ailleurs.
Et alors, je me permets de poser une question du coup par rapport au Reiki, parce que vous avez dit tout à l'heure le terme magnétiseur et aussi Reiki. Je crois qu'il y a une différence entre les deux, c'est ça?
Alors, le magnétiseur, en fait, utilise son énergie.
D'accord.
Oui, c'est un don.
Voilà. Vous venez un week-end prochainement que j'organise pour vous initier, vous pourrez faire du Reiki immédiatement après. C'est-à-dire qu'on est simplement un canal. À partir du moment où on a été initié, on est capable de retransmettre.
D'accord, ok.
Il n'y a pas besoin de capacité particulière.
Ok. Et du coup, un soin Reiki, on dit
alors,
soin Reiki,
alors,
c'est ça?
Normalement, on ne dit pas soin, puisqu'on n'est pas du monde médical. D'accord. Donc, on dit traitement. Il faut faire. Alors, okay. Ça devient un peu plus cool de ce côté-là. Mmh. Mais il faut faire attention, parce qu'on peut avoir quelques problèmes avec les différents ordres.
Oui, alors lors d'une séance de Reiki, en fait, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme l'acupuncture où on plante des aiguilles?
Ça se passe par les mains, en fait. Okay. C'est-à-dire que c'est une apposition des mains, soit direct en touchant, soit à quelques centimètres, soit éventuellement plus haut, puisqu'en fait, on a un cœur physique, mais on a plusieurs cœurs autour de nous. Et avec le Reiki, on peut travailler sur les différents cœurs.
D'accord.
Donc, c'est apprendre à lâcher prise. Et à faire confiance. Quand j'ai commencé la formation avec l'ami qui est devenu aussi maître Reiki, tous les deux, c'est « Ouais, on essaye, mais on n'y arrivera pas. » Une heure après, on était très surpris des résultats.
Et donc, pour les auditeurs qui nous écoutent, je peux me permettre de poser une question, Alain? Ouais, super. Une deuxième, pardon. Ah. Mais du coup, dans le Reiki, l'idée, c'est quoi? C'est de... Parce qu'on parle d'énergie qui circule dans le corps, un peu comme les chakras aussi, un petit peu, c'est ça?
Oui,
c'est... Et de faire circuler un peu tout ça, c'est quoi le truc?
Mais en fait, nous, on ne fait rien. C'est okay. L'énergie universelle qui est autour de nous a une certaine conscience. Et elle va aller où il y a besoin. Donc on a un protocole où on pose les mains à différents endroits, mais on pourrait très bien, pendant toute la séance, mettre les mains au niveau de la tête, ça ira où il y a besoin.
Okay.
Et on peut avoir différentes sensations, on peut ne rien ressentir, il y a souvent des sensations de chaleur, de fraîcheur. Après on est, pendant les 30 minutes qui suivent à peu près, un peu chaos, et on reprend, on a un rebond d'énergie après. Mais c'est assez spécial. Et alors, je parlais d'effet placebo, mais... Ça m'est arrivé de le faire à un bébé qui faisait ses dents. Bon, je ne suis pas sûr qu'il comprenait ce que je faisais. Et en moins de 30 secondes, il n'avait plus mal.
Parce qu'il arrêtait de pleurer, c'est comme ça que vous le savez.
Voilà. Okay.
D'accord.
Donc, mais à la limite, ce n'est pas grave. Placebo ou pas placebo, l'important, c'est d'avoir un résultat.
Oui, c'est de se sentir bien.
Et dans le pire des cas, il ne se passe rien.
Dans le pire des cas.
Ouais, dans le pire, c'est vraiment ça. Le pire. Oui, c'est-à-dire que c'est pas magique. Il peut y avoir une séance où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ou en tout cas, on n'a pas conscience.
Qu'il se passe des choses.
Okay. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi au niveau de l'inconscient.
Bah, merci pour ces précisions. Oui. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, déjà une petite pause musicale. Alain, tu nous proposes une petite musique, il me semble.
Ouais, j'ai mon groupe préféré depuis que j'ai 15-16 ans, Pink Floyd. Un album qui s'appelait Medal, et donc le morceau, c'est
Echoes,
le début de Echoes.
retour sur Bonjour Turbine. C'était Echoes des Pink Floyd, extrait de la musique originale de 23 minutes. C'est la sixième et dernière piste de leur album Medal, sorti en 1971. Merci Alain pour cet interlude planant. Retrouvons nos invités Isabelle Vauvarin, maître Reiki et chamane, et Daniel Brunet, maître Reiki également, sophrologue et praticien de Shiatsu, pour la deuxième partie de leur interview dans le cadre de cette émission qui, ça fait pas mal de le rappeler, pour ceux qui nous rejoignent, porte sur les pratiques de soins alternatifs.
Avant de la musique, avant Pink Floyd, on parlait éventuellement d'effet placebo, mais que oui, ça n'avait pas grande importance dans la mesure où ça donnait un résultat. Est-ce que pour les détracteurs de ce genre de pratique et de soins, vous pouvez vous appuyer sur des bases scientifiques ? Est-ce qu'il y a eu des recherches là-dessus ou pas ?
Oui, tout à fait. Il y a des explications très scientifiques, notamment du Reiki. Hein, c'est, alors, je ne saurais pas vous citer les sources, mais dans un livre qui s'appelle « La quintessence du Reiki », écrite par trois écrivains, trois maîtres Reiki. Il y a trois pages là-dessus, quatre pages là-dessus, et ça a vraiment été prouvé scientifiquement. J'ai aussi envie de vous parler de l'expérience de Corinne Sombrin, qui était elle aussi, reporter en ethnologie, qui est allée dans différentes tribus, enfin en tout cas différents pays, pour aller recueillir des sons sur des pratiques chamaniques, notamment en Amérique du Sud, et puis aussi en Mongolie, où elle était venue prendre des sons pour recueillir les sons d'une cérémonie chamanique chez les Mongols. Et au cours de cette séance, elle est entrée en transe. Alors, elle s'est fait copieusement engueuler par le... Il n'y a pas d'autre mot. Par le chaman en disant « Vous n'êtes pas correct, vous ne m'avez pas dit que vous étiez chaman. » Et elle dit « Je ne le savais pas. » Et on lui a demandé, enfin, les chamans lui ont dit « Puisque vous êtes chaman, vous allez rester chez nous, on va vous former à ce métier. »
« Vous ne bougez plus. »
Voilà, donc elle a dit « Bon, ok, mais j'ai quand même une petite famille, donc je ne vais pas venir tout le temps à plein temps. » Donc pendant plusieurs années, elle y est allée plusieurs mois. Et elle a été formée par Nketuya, une chamane mongole. Et ses compétences de chamane, elle les a non pas pratiquées dans une clientèle privée comme je peux le faire. Elle l'a accepté. Enfin, elle a été contactée par des laboratoires scientifiques, tant au Canada qu'en France, pour étudier les effets de la transe sur le cerveau. Et ces études-là ont donné naissance à la certitude que l'état du cerveau pendant les transes chamaniques était tout à fait reproductible au profit de la personne qui le faisait et utilisable auprès de certains patients en psychiatrie pour être guérisseur, en fait. Donc ça, c'est une chose. Et puis, tout à fait par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas ? Il y a quelques jours, sur Facebook, je voyais passer les résultats d'une étude qui nous concerne, nous canés, puisque au CHU, comme tu disais tout à l'heure dans une autre émission, il y a Eric Buy, qui est professeur en psychiatrie à l'université de Caen, chef de clinique à Esquirol, qui a fait une étude qui prouve que la méditation peut remplacer les médicaments. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est du monde scientifique. Dans son service, il utilise aussi des pratiques alternatives comme le MDR, qui est une technique de mobilisation des yeux pour traiter les états post-traumatiques. Et ça, c'est entre autres, hein, parce que je sais qu'il utilise aussi d'autres pratiques. Donc, on reproche parfois aux médecines alternatives de ne pas avoir de base scientifique, parce que la science a besoin que ce soit des scientifiques qui fassent les recherches pour que ça soit validé. Or, d'une façon empirique, on peut déjà, nous, en tant que praticiens, comme disait Daniel, on fait des soins, on voit les résultats ou pas, ou on nous dit les résultats ou pas. Moi, ça fait maintenant, depuis 2007 que je pratique, donc ça fait quand même quelques bonnes, longues années. C'est une quinzaine d'années que je pratique, et je vois plus de résultats bénéfiques pour les personnes que de résultats où il ne se passe rien ou peu de choses. Donc, voilà, pour moi, ça, c'est la recherche expérimentale qui se base sur l'expérimentation. Et c'est une pratique aussi. Toutes ces pratiques-là, la plupart, hein, en tout cas, les pratiques qui sont liées à des dons, comme toutes formes de magnétisme, de chamanisme, de les hommes médecine, les sorciers, tous les noms qu'on peut donner à ces praticiens. Depuis la nuit de temps, ça existe. Et il n'y a aucune raison que ça ne soit pas valide, enfin positif, véridique, si ça a duré si longtemps. Depuis la nuit des temps, l'homme se soigne avec les mains, l'homme se soigne avec les plantes, l'homme se soigne avec les énergies de la nature. Et n'est-ce pas la meilleure preuve ?
Je ne peux qu'abonder dans ton sens. Moi, j'ai encore deux petites questions à vous poser. C'est le nerf de la guerre de tout un chacun. C'est combien ça coûte ? À la fois comme... alors, je ne sais pas si on dit client, patient...
Moi, j'ai du mal à utiliser client, mais je n'ai pas le droit d'utiliser patient. Donc, voilà. J'alterne entre les deux.
Client ou païen ou
patient. Voilà, c'est ça. Oui.
Donc, les païens classant tiens... Quels sont les coûts d'une séance, d'un stage ? Et tu parlais de Shiatsu, de Reiki, des formations qu'il peut y avoir. Et une question subsidiaire à ça, puisque je sais que certaines pratiques alternatives aujourd'hui sont reconnues par certaines mutuelles. Mmh. Est-ce que vous connaissez des mutuelles qui remboursent, participent à des... pour des gens qui ont eu des séances avec ce genre de pratiques.
Oui, alors je sais qu'il y a des mutuelles, on va dire, professionnelles, comme je sais qu'à Naval, par exemple, à Cherbourg, il y a des séances de psychologues et de relaxologues, psychologues, sophrologues et autres médecines alternatives qui sont remboursées, et je crois même que c'est une par mois, quelque chose comme ça. La MGEN, à ma connaissance, rembourse l'ostéo, qui il n'y a pas longtemps a été considéré comme du charlatanisme aussi, hein, n'est-ce pas ? Rembourse d'autres pratiques, je n'ai pas trop de détails là-dessus. Et oui, il y a des...
Et en termes de coûts ?
Alors, pour une séance Reiki, pour moi c'est 40 euros, mais je n'en fais quasiment plus. Ce que je fais, ce sont des soins chamaniques avec une spécificité qui s'appelle le recouvrement d'âme, où vraiment il y a une grosse réparation de traumatisme. C'est 70 euros la séance, la première séance durant 1h30 et les deuxièmes, les suivantes à peu près 1 heure. Voilà. Et ce sont des séances qui se font, quand on veut en faire plusieurs, c'est une par mois à peu près.
Et pour des gens qui voudraient se former des pratiques
Par rapport au Reiki, un stage, il y a 4 degrés. Un premier degré, je prends 150 euros. Le deuxième, alors je suis un peu...
Et c'est dur ?
C'est très, très dur.
Non, ça dure combien de temps ?
Un week-end.
D'accord.
Mais c'est très, très dur. On mange bien, on parle bien, on s'amuse bien. ça crée surtout un lien énorme entre les personnes qui participent. Et qui souvent, j'en ai fait un en octobre, certains m'avaient dit « je m'arrêterai au premier ». Là, ils viennent de me rappeler « quand est-ce que tu fais le deuxième ?» Et en fait, au deuxième, j'ajoute 50 euros, au troisième, j'ajoute 50 euros, mais je suis un peu en dessous des tarifs, parce que je travaille de façon associative, avec l'intention de créer plutôt un dispensaire de soins palliatifs. Alors, je dis palliatif parce que j'ai une spécialisation aussi en soins palliatifs. Okay. Et que depuis 30 ans, j'accompagne des personnes au départ avec la sophrologie et j'ai rajouté le Reiki maintenant et je fais un petit mix des deux. De soins de bien-être où le tarif serait libre. Et dans la pratique, je troque beaucoup. C'est-à-dire qu'une séance que je ne prends pas à 40 €, mais je pars du principe, je fais une séance d'une heure, ben éventuellement, j'ai une femme de ménage pour une heure. Avec ma voisine, ça fonctionne comme ça. Mmh. Je n'ai pas le lapin, je n'ai pas la poule, je n'ai pas les œufs, mais on a la même qualité de travail et puis on échange.
Le message est passé, alors si jamais d'éventuels collègues, collaborateurs, confrères, je sais pas comment auraient envie de s'associer
avec grand plaisir,
s'associer à vous, qui n'hésite pas à vous contacter.
Oui.
et bien merci beaucoup Isabelle et Daniel pour vos regards et vos retours d'expérience. Le temps file et on a tant de choses à se dire. Je vous propose qu'on retrouve maintenant David et sa chronique humoristique.
Merci à vous.
Affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes.
L'histoire de l'histoire, avec David, entrée dans l'histoire dans Bonjour Turbine.
Bonjour les amis, chers auditeurs, bonne année, bonne santé, surtout, parlons-en de la santé. Mon pote Enes, avec toutes ses médecines douces et parallèles, il est carrément passé dans la quatrième dimension. Et à force de délirer, il a fini par passer de l'autre côté. Alors, laissez-moi vous conter son histoire. Enes avançait à pas compter, malgré les frissons qui couraient dans son dos. Ses yeux restaient fixes. Droit devant, au fond du couloir, un ray de lumière passait sous la porte. Enes actionna la clenche, ouvrit. Il s'engouffra dans un autre couloir et là, il entendit l'air du duo des chats de Rossini. Enes tenta de définir d'où venait ce bruit rigolo de chat qui miaule. Il poussa une seconde porte et là, devant lui, Catwoman. En chat, en chair et en poil. Et non pas en chair et à poil. Évidemment, il fut attiré par cette belle chatte. Alors qu'il s'apprêtait à la caresser, sortit de nulle part Chewbacca, qui lui asséna un gros coup de boule de manouche. En mauvaise posture et voyant sa dernière heure arriver, Enes dut son salut à la sagesse de Yoda. Chewbacca, jaloux tu ne dois pas être. Demander pardon tu dois et surtout bisous faire. Après cette mésaventure, Enes continua son périple en passant une troisième porte. Dans cette pièce, Candy et Heidi se tenaient là devant lui en bikini avec la ferme intention de le violer. Il parvint in extremis à échapper aux griffes des deux frustrées furies. Il reprit son souffle, hésita à passer une ultime porte. Il la poussa quand même. Et ô stupeur, quel délire! Pif le chien, Félix le chat, Scooby-Doo, Flipper le dauphin se jetèrent sur lui. Il trouva vite la sortie, mais mourut de ses blessures, piqûres de Maya Labelle, gifles de Casimir ou encore morsures de Rintintin. Aussi, sur sa pierre tombale, on peut lire « Enes et meurt ». Voilà.
Pauvre Enes, mais dis donc, il lui arrivait de ses aventures. C'était un petit peu la mort aujourd'hui, le thème la mort et Star Wars, un petit mélange des deux.
C'est à dire que mon personnage avait utilisé les médecines douces, mais je pense qu'il était plutôt en état d'hypnose là pour le coup.
Alors, ou d'une transe complètement incontrôlée quoi.
Oui voilà. Justement j'avais une petite question, une petite question à propos du Reiki. Moi j'ai ma belle-sœur qui est maître en Reiki. Et mon appareil auditif ne fonctionnait plus, mais vraiment ne fonctionnait plus. Et elle a commencé à faire, comme vous disiez, des impositions avec la main. Alors, moi, je n'ai pas d'a priori pour la médecine douce ou je ne suis pas pour ou contre. Je n'ai pas d'avis. Mais par contre, en fait, j'avais confiance en ma belle-sœur. Et en fait, la question que je me pose, c'est dans quelle mesure Si quelqu'un d'autre avait fait ces mêmes impositions, est-ce que ça aurait pu marcher ? Est-ce que c'est la confiance n'est pas aussi l'élément précurseur ?
Alors, Daniel.
Elle est primordiale. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, si on voit au bout d'un certain temps qu'il n'y a pas de résultat, moi, je conseille d'aller voir quelqu'un d'autre. C'est qu'il n'y a pas de lien entre moi et la personne. Et par rapport à ce genre d'exemple, moi, j'ai un exemple très concret. Quand je suis devenu maître Reiki, on a une obligation pendant 3 mois de se faire un autotraitement tous les jours. On m'avait diagnostiqué une anomalie cérébrale bien avant. Donc, tous les 6 mois, je fais et je n'y ai pas pensé du tout. Mon dernier REM, c'était 15 jours après mes 3 mois d'autotraitement. L'anomalie a disparu. Et je n'ai pas fait du tout de travail là-dessus. On ne peut pas dire qu'elle ne viendra pas, mais en tout cas, pendant quelques temps, je suis tranquille. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir confiance. Et entre autres, le Reiki, on ne peut le faire qu'avec l'accord de la personne. Ça peut nous mettre, par contre, dans des situations très compliquées. Parce que j'ai ma mère qui a eu un cancer, je lui ai demandé, je savais que je pouvais l'aider, mais elle n'avait pas envie. Bon, ben.
Et là,
je fais pas.
Le respect du choix.
Travail d'humilité.
Voilà, tout à fait.
Mais mine de rien, on retrouve un petit peu quelque part là, pour le coup, un pont avec la médecine, avec toute forme de médecine, c'est la relation, enfin, la confiance que la personne soignée accorde à la personne qui estime qu'il va le soigner, quoi. Et que ça joue énormément dans le soin.
Tout à fait. Et c'est surtout complémentaire aussi des techniques traditionnelles.
Oui,
ne jamais
sûr.
Arrêter
oui, oui.
un traitement traditionnel oui, parce qu'on va faire du Reiki. Faire attention parce que ça peut arriver.
Oui, c'est vraiment complémentaire. Mmh. Et de plus en plus, les médecines alternatives sont invitées par les médecins et notamment les souffleurs de feu sont...
Oui, de plus en plus dans les hôpitaux, effectivement.
Alors, je suis souffleuse de feu et je lance un appel aux urgentistes, aux médecins et aux praticiens qui auraient besoin de souffleurs de feu dans un service de brûlé sur Caen ou ailleurs. Je peux le faire avec volontiers, d'une façon complètement bénévole, en présentiel ou à distance. Voilà, c'est quelque chose qui apporte un grand soulagement. Et voilà, j'ai eu aussi l'occasion d'accompagner des gens en radiothérapie sur du long cours et ça a nettement atténué tous les effets secondaires du traitement. Donc c'est vraiment complémentaire. Il n'y a qu'en France que c'est très réfractaire. Tu parlais des mutuelles dans quasiment tous les pays occidentaux. Ces soins-là sont non seulement remboursés par la mutuelle, mais intégrés aux services de santé, que ce soit les santé de ville ou hospitaliers. Il n'y a qu'en France où il y a une forte résistance, où les pratiques sont parfois citées justement dans Midiluve. Voilà, je suis dyslexique, donc en fait, c'est le service de surveillance des pratiques sectaires. Et beaucoup de pratiques de médecine alternative y sont citées comme à surveiller, alors que dans tous les autres pays occidentaux, elles sont dans les services pratiquées d'une façon complètement naturelle.
Eh bien, merci Isabelle et merci également Daniel pour ces compléments. Et merci à toi David pour ta chronique et pour cette question qui a permis d'encore un peu plus approfondir... certains aspects de cette émission, de ce thème. On va maintenant écouter Brigitte Fontaine. Donc on change complètement de registre du Pink Floyd. Brigitte Fontaine, SOS Médecin, texte donc rédigé et interprété par Brigitte Fontaine sur l'album Des Histoires de Valerio Big Band.
Chagrin. part sur le Titanic. Regard métallique et chic. Enfin, cimetière marin.
Vous êtes bien sûr Bonjour Turbine dans notre émission du jour qui parle des thérapies, des pratiques de soins alternatifs. Et vous venez d'écouter SOS Médecin, rédigé et interprété en 2016 par Brigitte Fontaine sur l'album Des histoires de Valerio Big Band. Salut Raphaël.
Salut Oxane.
Ça y est, c'est ton heure.
Eh oui, c'est à moi. C'est parti.
Eh bien, parce qu'il est nécessaire que tous les questionnements liés à ces pratiques alternatives soient posés, tu as choisi d'interroger l'influence des émotions et des biais cognitifs sur nos prises de décision, et notamment en matière de santé. Pour ce faire, tu as invité l'enseignante chercheuse en psychologie, c'est pas facile à dire, Virginie Bagneux, que nous accueillons en duplex, si je puis dire.
Virginie Bagneux, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on vous entend, c'est super. On est avec vous par téléphone. On a lancé l'appel au début de l'émission, donc normalement, vous avez entendu un peu les propos des uns et des autres. Vous êtes maître de conférence en psychologie sociale à l'Université de Caen, membre de l'Observatoire Zététique. La zététique, c'est l'art du doute. Et aussi membre du groupe de travail sur l'esprit critique du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Vos travaux portent sur le traitement de l'information, les biais de l'esprit qui en découlent, ainsi que sur le développement de l'esprit critique. On a eu l'idée de vous donner la parole en visionnant le documentaire « Thérapie et alternative » d'Alexandre Prézier, dans lequel vous intervenez et qui est disponible sur YouTube. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, pour qu'on comprenne bien votre position sur le sujet de ce soir, quel est votre rapport personnel avec ces pratiques de soins non conventionnels ?
Alors, on me pose souvent la question, effectivement, dans ces termes, est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas, est-ce que moi-même j'y ai recours. Moi, en fait, ce qui m'intéresse vraiment dans ce genre de situation, c'est de savoir, par rapport aux allégations des praticiens, quelle que soit la pratique en tant que telle, c'est de me demander, mais qu'est-ce qui se serait vraiment passé si on n'avait rien fait ? Parce que si on ne va pas voir ce type de praticien, Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on guérit spontanément? Est-ce qu'on va plus mal? Parmi l'offre très, très grande qu'il y a, vers laquelle il faut, de manière privilégiée, s'orienter. Est-ce qu'il y a un QFC que choisir de la thérapie qui guérit le cancer, le sida ou le rhume ou n'importe quelle maladie chronique? Et en fait, quand on se pose la question en ces termes-là, on n'est plus vraiment dans le domaine de la croyance. On ne cherche plus à savoir si on y croit ou si on n'y croit pas, mais bien s'il existe une démonstration que la pratique en question amène quelque chose de positif à l'individu, et notamment est-ce qu'il le guérit. Donc en fait, ma position par rapport à ces pratiques, c'est qu'en dit la littérature scientifique sur le sujet? Est-ce que il est démontré empiriquement que ça marche?
Mais alors, bon, je pense que vous connaissez pas par cœur toute la littérature scientifique sur le sujet, mais c'est un sujet qui vous intéresse, où vous avez un peu ces données en tête. Est-ce que d'un point de vue scientifique, vous pouvez nous dire un peu ce qui ressort de la littérature de manière générale sur la validité de ces pratiques?
Alors, pour répondre à ce type de question, effectivement, est-ce que la spécificité de ces pratiques est importante pour répondre sur la question de la validité de leur efficacité? En fait, en science, on a la notion de méthode expérimentale qui compare de manière systématique, hein, comme je disais en introduction, un groupe qui va suivre l'intervention ou la pratique à un groupe qui a une évolution. Disons spontanée de ces mots. Et ce n'est que si on observe une différence entre ces deux groupes-là que on établit que la pratique est valide et qu'elle a une efficacité. Et en ce qui concerne, je suis encore allée voir les études sur le Reiki cet après-midi pour préparer l'émission. Et à ce jour, en fait, la littérature est très muette, c'est-à-dire que je n'ai pas trouvé d'études qui valident scientifiquement l'efficacité du Reiki en particulier. Et de manière générale, de tout ce qui est appelé thérapie alternative et complémentaire. Parce que la plupart des études qui sont publiées sont supposées montrer un effet, et si on n'en a pas dans la littérature, c'est que on échoue en fait à montrer un effet par rapport à un groupe témoin. Et les rares méta-analyses qui regroupent des études qui montrent des effets en termes d'efficacité, souvent, elles se retrouvent avec quelques études, 4 études, 7 études, selon la pratique. Et les conclusions de ces méta-analyses, c'est toujours la même. On manque de données pour asseoir la validité et l'efficacité de ce type de technique. Donc, à ce jour, en fait, si on appelle ça des pratiques alternatives et complémentaires, c'est parce qu'elles ne sont pas, elles n'ont pas fait preuve d'efficacité scientifique, d'un point de vue scientifique.
Et alors, il y a cette question de ce que nous dit la science, mais après, c'est aussi, chacun en fait a le choix de recourir ou non à ces pratiques, le Reiki, la naturopathie, le shiatsu et bien d'autres choses encore. Du coup, vous, avec ce point de vue scientifique et votre qualité de psychologue, quelle clé vous nous donneriez pour prendre une décision éclairée, rationnelle sur ces sujets-là?
Alors, si on croit ce que je viens de dire, hein, qu'il n'y a pas d'efficacité avérée, il conviendrait déjà d'une part envisager de se tourner vers ces pratiques-là. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on attend en fait de la mise en pratique du Reiki, par exemple, ou de l'acupuncture. Est-ce que c'est une solution de guérison au sens médical du terme? Est-ce que je veux guérir d'une maladie potentiellement grave dont je peux mourir si je ne fais rien? Et auquel cas, peut-être que ces médecines-là, ce n'est pas la première solution à envisager, et la médecine dite conventionnelle est peut-être la première piste à investiguer. Et puis, deuxième chose, est-ce que c'est parce que dans la médecine, je me sens pas assez écoutée, entendue, j'ai des émotions négatives comme par exemple du stress ou de l'anxiété vis-à-vis de mon devenir, ou encore est-ce que c'est un développement personnel que je vise? Ça fait partie des questions qui justifieraient dans une certaine mesure le recours à ces pratiques-là. Et puis il y a la question de l'alternative. Je pense qu'on ne parle pas assez. Moi, je suis en psychologie sociale. Je connais les thérapies cognitives et comportementales, pour ne citer qu'elles, mais il y en existe d'autres dont on ne parle pas assez dans les médias notamment, et qui sont des techniques qui sont avérées efficaces pour réduire, par exemple, ces émotions négatives et dysfonctionnelles comme l'anxiété ou le stress. Donc peut-être que la question de l'alternative, elle se pose à un autre niveau que ces médecines alternatives, parce qu'il existe des solutions qui marchent.
Alors, des solutions qui marchent, du coup, vous dites validées par la science, effectivement. Et on voit pourtant que ces pratiques non conventionnelles ont pas mal de succès, de plus en plus. Même, je n'ai pas vérifié les chiffres, mais en tout cas, on en parle beaucoup dans les médias. C'est ce qu'on disait juste avant. C'est quoi les ingrédients du succès, en fait, de tout ça?
Alors justement, dans le rapport de la Miviludes, il y a des chiffres qui datent de 2021. Effectivement, vous n'avez pas de chiffres à citer, moi j'en ai un. C'est 86% des gens interrogés sont favorables à ce type de pratique. Donc effectivement, c'est assez populaire. Alors comment on explique ça? La première raison, souvent, c'est que on a tendance à confondre le « ça marche » en termes de satisfaction. Je suis content de mon praticien, de ma relation avec lui, j'ai l'impression d'aller bien, avec véritable notion d'efficacité au sens médical du terme, c'est-à-dire une amélioration des symptômes ou de la pathologie. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, y a beaucoup de biais de raisonnement qui peuvent nous amener à adhérer à ce type de pratique. Alors, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais par exemple, on peut éventuellement être amené à confondre ce qu'on appelle la corrélation et la causalité. Donc, par exemple, dans une maladie chronique, il y a des moments où je vais bien, puis il y a des moments où je vais moins bien. Et je vais forcément commencer par aller voir mon médecin pour essayer d'aller mieux. C'est le moment où la douleur augmente, etc. Et au moment où j'arrive au pic de douleur le plus élevé, je me mets à envisager d'autres solutions. Et dans une maladie chronique, par exemple, la douleur, à un moment, elle finit par spontanément rediminuer parce qu'il y a des améliorations de l'état qui se font régulièrement. Et ça va correspondre au moment où je suis allée voir mon chaman ou je suis allée voir mon praticien de Reiki. Et je vais attribuer ça à ma visite chez mon praticien et non pas à l'évolution spontanée de ma maladie. Donc, ça fait partie des erreurs de jugement en fait qu'on fait quand on a recours à ce type de pratique. Il y en a d'autres, par exemple, c'est le recours à l'explication liée au hasard, c'est-à-dire que parfois, il y a des guérisons qui se font de manière spontanée, il y a des pathologies qui guérissent toutes seules, et puis il y a des évolutions aussi spontanées. J'ai entendu les barreurs de feu, par exemple. On sait que la brûlure, elle a une temporalité et qui correspond généralement au temps qu'on met pour appeler un praticien. Donc il y a plein de manières déviées de raisonner qui donnent crédit à ces pratiques. Et puis, je n'ai pas le temps de développer, mais il y a aussi tous les effets contextuels liés à ce qu'on appelle l'effet placebo, qui contribue à envisager que c'est la pratique alternative qui est à l'origine de l'amélioration de notre état.
Est-ce qu'on a le temps encore pour une petite question, Oksane ?
Oui.
Oui. Alors, on a autour de la table de praticiens de ces médecines douces, non conventionnelles. Il y a plein de noms différents. C'est un peu mélanger les pinceaux, mais en tout cas, on voit bien l'idée. Et pour autant, ce qu'on peut se poser, c'est est-ce que forcément, après tout ce qu'on s'est dit, on a cité le rapport de l'ami Vilude, il faut considérer ces personnes-là et d'autres comme des gourous, des charlatans, ou on peut être plus modéré que ça.
De tous ceux que j'ai eu l'occasion de rencontrer, bien qu'il ne faille jamais écarter la possibilité qu'il y en ait qui soient effectivement mal intentionnés et qui exercent à dessein ces pratiques alternatives, la plupart des personnes sont sincères en fait. Elles sont véritablement convaincues d'apporter quelque chose à leurs clients et elles veulent vraiment aider. Donc je pense que la question ne se pose pas vraiment là. Par contre, c'est quoi le risque d'avoir recours à ces pratiques-là? Le risque majeur, c'est le retard de la prise en charge et le fait de ne plus avoir recours à des techniques qu'on sait efficaces. J'ai entendu dire tout à l'heure que la méditation pouvait remplacer les médicaments. C'est typiquement le genre d'allégation qui peut conduire une personne qui dit ça en prison, hein, parce que on n'a pas le droit en France de dire ce genre de choses, c'est-à-dire de détourner les gens de la médecine qui est à ce jour la seule qui fait preuve d'efficacité concernant la prise en charge de nombreuses pathologies. Et puis il y a un autre point aussi qui a été dit tout à l'heure et je tiens à le corriger, c'est que les pratiques ces pratiques alternatives et complémentaires elles sont marginalisées dans tous les hôpitaux modernes du monde, c'est-à-dire que c'est pas spécifique à la France et le risque de laisser rentrer ces pratiques dans nos hôpitaux, dans la pratique courante, on va dire, c'est principalement le coût sociétal qui va avec, c'est-à-dire la question de leur remboursement au détriment d'autres techniques dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, elles, ont une véritable efficacité sur l'état des patients. Et puis je terminerai avec le rapport encore une fois de l'ami Vilude hein, qui alerte sur ces pratiques. Hein, ces pratiques de bien-être et de développement personnel, c'est les premières entrées dans les dérives sectaires. Il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup d'affaires qui sont portées en justice. Il faut aussi se méfier de l'emprise que peut avoir un praticien sur un individu qui en plus est en situation de faiblesse parce qu'il est en quête de sens par rapport à une maladie, il est dans un état psychologique et physiologique qui est peut-être qui l'affaiblit. Donc faut être très vigilant à lorsqu'on on s'oriente vers ce type de pratique.
Merci beaucoup Virginie Bagneux pour tous ces éléments. Sur la question de cette publication autour de la méditation, Isabelle Vouvara m'a montré la publication dans les médias. En tout cas, il y a eu une étude qui est parue. Donc après, il faut aller regarder dans le détail avec justement un œil critique. Mais en tout cas, il y a cette étude-là. On va laisser nos auditeurs se faire regarder ça en détail. On a pas le temps de faire un grand débat là-dessus, mais merci en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Merci de votre invitation, bonne soirée.
Vous aussi.
Merci Raphaël, effectivement merci Virginie Bagneux pour cette interview. Alors moi ce que je trouve intéressant dans cette émission, sans vouloir qu'on se lance des fleurs, c'est que mine de rien on a pu entendre différents points de vue, différentes manières d'appréhender les pratiques alternatives et que moi ce que j'ai envie de retenir c'est que certes il faut faire attention, ce serait bien qu'il existe une espèce du QFC, UFC que choisir, c'est ça, pour effectivement permettre aux personnes plutôt vulnérables de se prémunir d'éventuelles dérives, mais comme il en existe partout. Et puis ce que je retiens aussi, c'est que certes, il faut tout à fait développer notre esprit critique, c'est primordial, mais en même temps, il ne faut surtout pas hésiter à se faire du bien. Et s'il y a des pratiques, des techniques, que ce soit méditation, reiki ou médecine conventionnelle, à partir du moment où ça nous fait du bien, c'est bien le principal. Merci encore une fois à nos invités, Isabelle et Daniel. On est ravis de vous avoir accueillis en plateau. Et puis, merci à l'équipe de Bonjour Turbine. Et enfin, on va pouvoir terminer cette émission avec Flâneur Conteur, avec Alain, qui va nous faire, qui va nous emmener, nous donner rendez-vous avec la Lune, si j'ai bien compris. Il va nous emmener au fin fond de la nuit.
Ah oui, j'ai demandé à la Lune et elle m'a répondu. Sur cette rubrique Conteur Flâneur, qui à chaque fois est le même principe, à partir d'une photo que j'ai pu prendre, qui est en rapport avec proche ou plus ou lointain du sujet de l'émission. J'étais sec complètement. Et quand la semaine dernière, on a préparé l'émission, tu me dis, mais t'as pas la pleine lune. Ah, mais c'est une super idée. Donc, je rends à César ce qui appartient à Oxane. L'idée vient d'elle. La photo, c'est moi, mais l'idée vient d'elle.
Est-ce qu'on se met un petit jingle ?
On se met un petit jingle. Alain Breton, photo flâneur, conteur. Une photo, une histoire, des histoires sur la Normandie ou les environs. Donc, la Lune et les effets de la Lune. Alors, comme on n'a pas trop de temps, je vais essayer d'être bref. Il y a un certain nombre de que certains appellent des idées reçues, d'autres de certitudes, qui prêtent à la Lune, et particulièrement à la pleine Lune, un certain nombre de vertus. Alors, je vais en prendre pour exemple celle des naissances qui, le jour de pleine Lune ou autour de la pleine Lune, augmenteraient de façon assez exponentielle. Eh bien, c'est une idée reçue. Le nombre des naissances sur des journées de pleine lune ou autour de la pleine lune n'augmente que dans une proportion qui est en dessous de 0,5%. Mais les scientifiques qui se sont quand même penchés sur la question disent que, quelquefois, les gens qui accouchent à la pleine lune peuvent avoir accouché parce que, pensant que la pleine lune pourrait avoir une influence sur leur accouchement, c'est la lune qui serait la complice de l'accouchement. Mmh. Là-dessus, il y a eu des tas d'études qui ont été faites, de même que, par exemple, sur se couper les cheveux à la pleine lune, est-ce que ça a une influence quelconque ? Eh ben, les professionnels de la coiffure, qui sont les plus aptes à le dire, ben non. La lune n'a aucun effet sur la repousse des cheveux. Quoi qu'on fasse, à quel moment on coupe les cheveux, ben on a toujours à peu près entre 2 et 3 cm par mois. Par contre, se couper les pointes régulièrement pour améliorer la qualité du cheveu, ça, c'est une bonne idée. Mais encore une fois, là, la lune, eh ben, elle y est pour rien. Alors, je passerai sur la lune et les plantes parce que je n'ai pas le temps, mais je vais finir par la fameuse pleine lune qui blanchirait ou les voitures ou le linge. Eh bien, ouais, en pleine lune, du linge qui est mis dehors ou une voiture qui sort de chez le vendeur et qui est à peinture métallisée va pouvoir avoir blanchi ou avoir terni la peinture, même sur une voiture toute neuve. Ouais, mais la lune, elle y est pour rien. Elle ne fait... C'est la lumière de cette nuit de pleine lune qui accélère un processus qui est complètement chimique et physique. C'est la transformation dans les couches hautes de l'atmosphère de l'air, des gaz qui s'y trouvent, et qui va provoquer l'air en peroxyde d'hydrogène. Et quand on a des nuits de pleine lune, on a des nuits complètement dégagées. Il n'y a pas de nuages, rien du tout. Donc, on a une humidité assez importante. Donc, ce qu'on appelle la rosée. Et bien, la rosée, plus le peroxyde d'hydrogène, avec une lumière forte, très forte, et bien, ouais, ça blanchit le linge, ça décolore la peinture des voitures. Mais de façon très spectaculaire. Mais la lune n'y est pour rien, parce que cette lumière qui vient de la lune... Bah, elle ne vient pas de la Lune. La Lune ne provoque aucune lumière. C'est juste un réflecteur du Soleil. Donc, ça m'ennuie. Bon, j'ai raccourci ma chronique parce que j'avais plein de choses à dire dessus. Mais J'avais demandé à la Lune si elle était pour quelque chose. Elle m'a dit bah, qu'elle y était pour rien. Ça m'a rendu triste.
Oh, merci Alain.
Bah, je t'en prie.
Merci Alain. Et puis, où est-ce qu'on peut retrouver déjà la photo dont tu nous as parlé, en fait, là, dans Flâneur Compteur? Où est-ce qu'on peut la voir, cette photo?
Ah, on pourrait la mettre dans les compléments de l'émission sur le...
Ouais.
On pourrait la placer dessus.
Sur le WIP, sur le site du WIP.
Voilà.
Tout à fait. Ok, alors pour nos auditeurs qui voulaient voir la photo, ce sera en direct sur le... Enfin, non, pas du tout en direct. Ce sera sur le site du WIP. Eh bien, c'est la fin de notre émission. Merci Alain pour ta capacité d'adaptation incroyable et foudroyante. Merci Isabelle Vauvarin. Merci Daniel Brunet. Merci à toute l'équipe de Bonjour Turbine sans qui cette émission n'aurait pas eu lieu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Bonjour Turbine. À vous les studios.